Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartre. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Code de la virilité, essai de Lucille Pétavin, propose une analyse socio-historique de la virilité comprise comme une norme culturelle apprise et non comme un destin biologique. À partir d'un constat statistique largement documenté dans l'espace public, la surreprésentation des hommes dans les violences et les conduites à risque, l'autrice cherche à rendre visible ce que ces comportements impliquent pour la collectivité. La démarche se distingue par un choix d'angle rarement central dans les débats sur le genre, la quantification, en estimant un quota annuel très élevé pour la France. Quoi ? Elle relie des phénomènes souvent traités séparément, justice, police, santé, accidents et conséquences pour les victimes, afin de déplacer la discussion vers des enjeux de politique publique. L'ouvrage est généralement présenté comme structuré en deux mouvements, une partie explicative sur la fabrication sociale de la virilité, puis une partie plus technique consacrée aux calculs et à leurs limites. L'objectif est de montrer qu'une transformation éducative et culturelle aurait aussi des effets matériels mesurables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la virilité comme norme sociale et non comme nature, un axe majeur du livre consiste à distinguer le sexe biologique de la virilité comme idéal culturel. Lucille Pétavin s'inscrit dans une approche qui traite la virilité comme un ensemble d'attentes sociales, valorisant la domination, la dureté, la prise de risque et la performance, et dévalorisant ce qui est associé au féminin. Cette perspective permet de comprendre pourquoi des comportements violents ou dangereux peuvent être encouragés, tolérés ou même récompensés dans certains contextes, alors qu'ils nuisent aux autres et aux hommes eux-mêmes. L'autrice insiste sur le caractère appris de ces conduites, elles s'installent par la socialisation, la famille, l'école, les pères, les représentations médiatiques et les normes de groupe. En rejetant les explications qui réduiraient la violence masculine à des causes hormonales ou innées, elle déplace l'attention vers des mécanismes modifiables. Ce déplacement est décisif pour son argument général. Si la virilité relève d'une construction sociale, alors ses effets ne sont pas une fatalité. Et les leviers d'action se situent du côté de l'éducation, de la prévention et de la transformation des modèles de masculinité valorisés collectivement. Deuxièmement, surreprésentation masculine dans les violences et les conduites à risque. Le livre part d'un constat récurrent dans les statistiques publiques et les discussions autour de l'insécurité. Les hommes sont très majoritaires parmi les auteurs de violences et de comportements à risque. L'autrice rassemble des exemples souvent cités dans la présentation de l'ouvrage, comme la part masculine dans l'incarcération. Certaines catégories de délits et crimes, les violences sexuelles ou les accidents routiers mortels. L'intérêt analytique n'est pas d'affirmer que tous les hommes seraient violents, mais de souligner un déséquilibre structurel, la grande majorité des violences enregistrées est commise par des hommes, tandis que les victimes sont fréquemment des femmes. Mais aussi des hommes. Cette asymétrie est interprétée comme un produit de normes viriles qui encouragent l'affirmation de soi par la force, la transgression, la mise en danger et l'intimidation. L'autrice met aussi en lumière la dimension de continuum, ou des comportements présentés comme banals, moqueries sexistes, humiliations, petites transgressions, peuvent préparer l'acceptation de violences plus graves, en reliant ces constats à la socialisation. Elle invite à traiter la violence non seulement comme un problème individuel ou pénal, mais comme un phénomène genré et culturellement organisé. Troisièmement, chiffrer le code collectif, une stratégie pour rendre visible l'impact. L'un des apports les plus commentés de l'ouvrage est la tentative d'estimation monétaire du code social de la virilité, annoncé autour de 82 milliards d'euros par an en France pour l'année de référence, évoque dans la communication autour du livre. L'objectif n'est pas de réduire la violence à une question comptable, mais de produire un indicateur frappant et mobilisable dans le débat public. La logique générale consiste à agréger des codes directs pour l'État, comme des dépenses de sécurité, de justice, de santé ou de prise en charge, et des coûts plus indirects liés aux dommages, aux pertes et aux conséquences pour les victimes et la société. Le livre assume que ce type de calcul comporte des limites et des hypothèses, et qu'il s'agit d'une approximation destinée à déclencher une prise de conscience et des travaux complémentaires. Cette démarche vise aussi à répondre à un impensé, on parle souvent du code de la délinquance ou de l'insécurité sans interroger leur dimension de genre. En mettant la virilité au centre, l'autrice propose une autre manière de cadrer les politiques publiques, en s'intéressant aux causes culturelles et éducatives plutôt qu'à une seule logique répressive. Quatrièmement, une structure en deux temps, analyse sociologique, puis partie méthodologique. L'ouvrage est fréquemment décrit comme composé de deux ensembles complémentaires. La première partie développe le cadre d'analyse, comment la virilité se construit, comment elle s'entretient et pourquoi elle est associée à des comportements antisociaux. Cette section vise à rendre accessibles des notions de socialisation de genre et à montrer que les normes viriles influencent des trajectoires de violence, de prise de risque ou de transgression. La seconde partie, plus technique, détaille la méthode de calcul du quota, avec des formules, des catégories de dépenses et des regroupements. Plusieurs retours de lecture soulignent que cette partie peut être plus exigeante, notamment pour des lecteurs peu familiers des raisonnements chichouets. Mais c'est précisément ce choix qui distingue le livre dans la littérature sur les masculinités, il ne se contente pas d'un diagnostic culturel. Il tente de lier ce diagnostic à des ordres de grandeur économique. Cette articulation entre explication et quantification a une fonction rhétorique et politique, rendre visible l'ampleur du phénomène, et montrer que le sujet concerne l'ensemble de la société, y compris ceux qui ne se sentent pas directement visés par les débats sur le genre. La structure sert donc à un objectif de diffusion large en combinant clarté narrative et démonstration chiffrée. En dernier lieu, piste d'action éducation. Prévention et revalorisation du féminin, le livre ne s'arrête pas au constat d'un côté élevé ou d'une surreprésentation masculine dans certaines violences. Il met en avant des pistes cohérentes avec son hypothèse centrale si les normes viriles sont apprises. À l'heure des politiques de prévention et une éducation moins genrée peuvent réduire les comportements à risque. Une orientation régulièrement associée à l'ouvrage est l'idée de rapprocher l'éducation des garçons de celle des filles, non pas pour imposer un modèle unique, mais pour desserrer l'injonction à la dureté et à la domination. Cette approche implique de valoriser des compétences et attitudes souvent associées au féminin, comme l'écoute, la coopération, la prudence ou le soin, et de cesser de les présenter comme des signes de faiblesse. L'autrice invite aussi à repenser les normes collectives qui récompensent la transgression et la violence chez les garçons, que ce soit dans les groupes de pairs, certaines cultures sportives ou des représentations médiatiques. L'enjeu est double: réduire la violence subie par les victimes et diminuer les dommages que ces normes infligent aussi aux hommes eux-mêmes par l'exposition aux dangers, aux addictions et à des formes d'isolement émotionnel. L'ensemble dessine une orientation de politique publique qui ne se limite pas à punir, mais cherche à transformer les conditions sociales de production de la violence. En conclusion, Le coût de la délinquance s'adresse à un public large, lectrices et lecteurs intéressés par les questions de genre, parents et éducateurs, professionnels de la prévention, mais aussi décideurs publics qui cherchent des cadres d'action au-delà des réponses uniquement sécuritaires. Le livre apporte un bénéfice intellectuel clair, il relie des phénomènes souvent séparés, violence, accident, justice, santé, en les interprétant comme des effets d'une norme de virilité et d'une socialisation différenciée. Il apporte aussi un bénéfice pratique, au sens où il propose des pistes de transformation centrées sur l'éducation, la prévention et la reconfiguration des modèles de masculinité valorisée. Ce qui le distingue d'autres essais sur la masculinité toxique est la tentative explicite de quantifier un code collectif, avec une méthodologie discute mais pensée comme un outil de visibilité politique. Cette stratégie de chiffrage sert à déplacer la conversation. La violence masculine n'est pas seulement un problème moral ou individuel. Elle a des impacts matériels et institutionnels mesurables qui concernent toute la société. Le livre peut susciter des débats, notamment sur les limites de l'évaluation économique et sur ce qu'elle inclut ou laisse de côté, mais c'est aussi ce qui en fait un objet stimulant. En somme, il propose un cadrage qui combine diagnostic culturel et arguments de politique publique, et invite à considérer la transformation des normes viriles comme un enjeu d'intérêt général. Si vous souhaitez soutenir Lucile Pétavin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.